c'est pas du vent. C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, vous êtes jeune et les modifications de votre environnement vous intéressent. Le programme Hip-Hop est pour vous. Hip-Hop, pour Petites Ondes Participatives, propose à des jeunes de recueillir en vidéo le ressenti des anciens sur les conséquences des changements environnementaux et climatiques. Après le Pacifique et l'Afrique de l'Ouest, il s'étend à l'océan Indien. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, direction le Bénin, où les expériences d'agroécologie et d'agriculture bio se multiplient. Résoudre l'équation changement climatique et croissance démographique en Afrique? Eh bien, l'une des réponses est de changer les pratiques, notamment dans le domaine agricole. L'agroécologie, cette méthode de culture qui s'est construite en réaction aux dérives de l'agriculture intensive, a pour règle de base aucun pesticide ni engrais chimiques, le respect de la vie des sols et le compagnonnage des cultures. Et au Bénin, elle séduit. Il y a près d'un mois, nous vous parlions des Jardins de l'Espoir, lancé il y a 4 ans par deux passionnés et qui compte aujourd'hui 5 fermes. À leur côté, une vingtaine d'entrepreneurs ont lancé leurs fermes agroécologiques et biologiques. Avec Charlie Dupiot, nous vous proposons un voyage qui nous emmènera dans la ferme biologique Les Jardins de chez Marlène, au nord de Cotonou, dans un magasin bio de la capitale économique. Mais la première visite, eh bien, c'est pour les pionniers, le très réputé centre régional Sonrail. Sonrail, du nom d'un empire du 15e siècle établi le long du fleuve Niger, empire qui englobait à l'époque le Mali, le Niger et une partie du Nigeria. Mais l'empire Sonrail aujourd'hui est agroécologique. Son centre d'origine est à Porto Novo, un centre ouvert par Godfrey Nzamujo il y a plus de 30 ans. Charlie Dupiot le retrouve sous un parapluie, saison des pluies oblige.
C'est pas du vent sur RFI.
Je viens d'arriver, je suis à côté de Papayer et j'attends monsieur le directeur, fondateur. Ça va ?
Vous voyez ? C'est vous voyez ici là. C'est le même site d'intégration, vous voyez les poules ici, les déchets sont tombés. Et on a mis le micro-organisme là. Le micro-organisme va convertir tous les déchets en engrais. 12 semaines seulement.
Là, on voit plusieurs poulaillers qui sont comme des paillotes, en fait, presque surélevés, hein, sur pilotis.
Pilotis. Comme ça, on récupère les déjections à l'entrée.
Le sol de la paillote, en fait, est un grillage et laisse passer les fientes des poules qui sont donc en dessous.
On a encore mis les pailles, vous voyez, et les micro-organismes mélangent tout ça pour faire. Donc déjà ici, ce n'est pas pour produire seulement les poules, mais aussi pour d'autres sections, l'intégration.
Pour le compost.
Pour le compost et pour le sol, vous voyez. Ça amène des bienfaits partout, au niveau de la production, au niveau des consommateurs, au niveau des producteurs. Alors, Charles, qu'est-ce que tu fais là?
Elles vont aller ces poules
à l'abattoir.
On va livrer ça au niveau de l'abattoir.
Là, on arrive aux plantations.
Plantation maintenant. Vous voyez, voilà l'intégration. Voilà les soja. Voilà le maïs que ça produit. On combine.
Donc les plants de soja sont vraiment moins élevés que les plants de maïs, mais ils sont côte à côte.
Enfin, les soja étaient là pour produire assez d'azote dans le maïs. Et le micro-organisme, donc comme ça, boum, ça prend. Les soja aussi a besoin de sucre qui vient de racines de maïs.
Donc c'est un échange entre les racines des deux plantes.
C'est la collaboration.
Les deux sont vraiment très serrés. Hein.
Exactement. Parce qu'il n'y a pas la concurrence, mais la collaboration.
Et on voit en fait des feuilles qui recouvrent la terre.
Pour continuer à nourrir la terre. Donc il n'y a pas l'érosion. Vous voyez.
Et comment vous faites par rapport aux pesticides, aux insectes?
Exactement, nous avons que le procédé biologique qui fait cet équilibre-là.
Vous avez des pesticides naturels?
Naturels. C'est à base de nîmes, à vagues de moringa, à vagues de tout. Nous avons toutes les arsenales. Nous avons toutes les arsenales. Depuis 30 ans, on a développé vraiment une arsenale que j'appelle aujourd'hui la technologie authentique. Là.
Et dans les premières années, vous n'avez pas eu des pertes en expérimentant?
On a fait beaucoup de pertes. Par exemple, ici, il y a quelques années, on avait des bureaux de tiges. Là. On apprenait vraiment comment ça, boum, n'est-ce pas, Maurice? Il y avait des bureaux de tiges, là, n'est-ce pas, ici?
Oui. Ça nous les a chenilles dérangé.
On a attaqué ça, on a réussi.
Elles se sont attaquées à quoi, ces chenilles-là?
C'est beaucoup plus au maïs.
La nourriture au sud du Bénin, c'est le maïs. Donc c'était vraiment un problème sérieux.
Là, nous sommes rentrés dans la pépinière. On voit, c'est le point central, en fait, ici, de Songaï.
Oui, c'est ça, c'est le point central ici. Donc, quiconque a besoin de pépinières, ils viennent ici et puis moi, je leur fournis ces plants.
Est-ce que je peux vous demander de vous présenter?
Oui, moi, on m'appelle Christophe Damon, donc je suis animateur au centre Songaï. Je suis là, déjà, ça fait déjà plus de 7 ans, donc je travaille ici. Bon, sinon, j'ai été formé dans la maison avec le diplôme, j'ai reçu le diplôme de Songaï. Et puis, j'ai commencé à travailler dedans.
Là, ce sont des alvéoles, donc des tout petits pots qui sont rassemblés les uns avec les autres. Et on voit déjà des petites tiges, mais vraiment même pas de la taille d'un pouce, qui sortent de terre avec des feuilles là. Donc, ce sont des tomates.
Des tomates, oui. Bien sûr que d'ici la semaine prochaine, nous allons faire le repiquage dedans. Donc, et dans ça, là, on met la semence au milieu. Mais avant de mettre la semence au milieu, on prépare le substrat. Substrat, c'est une association de trois différentes matières pour pouvoir vraiment faire une bonne pépinière.
Quelle matière?
La matière comme le compost tamisé, en plus le biochar qui vient de la cendre, et en plus la scie de bois. La scie de bois, c'est le copeaux réduit en poudre. On mélange ça et puis ça y est, nous avons préparé le substrat.
Christophe, vous, qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail-là, dans cette pépinière?
Non, moi, ce qui me plaît, c'est... Moi, j'aime tellement les végétaux, donc la couleur verte, ça m'inspire beaucoup. Et c'est des êtres vivants et je suis tellement à l'aise avec les plants. Je me communique avec les plants tous les jours et puis je me sens tellement à l'aise, c'est tout.
Vous leur parlez parfois?
Oui, je leur parle parfois. Et j'essaie, je fais tout possible pour arranger. C'est une fierté pour moi d'ailleurs, de les voir tellement vivants, de se comporter tellement bien. Ça passe bien entre les plantes et moi. Voilà. Voilà.
Godfrey Nzamoujo, là on voit votre centre en fait, Songaï, que vous avez commencé à construire il y a 34 ans. En 1985, pour revenir sur votre parcours, vous êtes né au Nigeria, vous y avez grandi, et à 25 ans, vous êtes allé étudier en Californie, entre autres la microbiologie. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être un petit peu sur l'histoire de cet endroit-là, au début, comment ça s'est passé? Je crois que vous n'aviez qu'un hectare pour commencer.
Tout d'abord, c'était le début. Je suis arrivé un jeune professeur d'Amérique avec des idées. Et le fond des idées, c'est que ça ne va pas. La vision qui poussait notre développement, c'était de mauvaise vision, cette vision morcelée de la réalité. Or, les défis aujourd'hui, c'est les défis de l'environnement et tout simplement de développement durable aujourd'hui. Or, le système en place va contre ça. C'est ça la base de Songaï. Donc, on nous a donné un hectare pourri, complètement pourri. Mais je n'avais pas peur.
Qu'est-ce que vous entendez par pourri, en fait? Comment était cette terre-là?
Il n'y avait pas le niveau de... Parce qu'avec l'engrais chimique qu'on a fait là-dessus, la vie était morte. Pour le nourrir, on a nourri avec les carbones, avec les feuilles mortes qu'on brûlait, coupées au niveau de paillage et tout ça, avec les déchets des animaux. Donc, les micro-organismes se sont réveillés. Un pays comme le Bénin paie à peu près 10% des produits nationaux à cause de dégradation de sol. C'est énorme.
Et qu'est-ce que vous avez planté alors sur ce premier hectare au début?
Parce qu'on regardait l'économie du pays, c'était le maïs, c'était le soja, c'était l'haricot et les légumes comme tomates, piments et tout ça. En même temps, pour moi, c'était intégré au début. Il y avait quelques lapins et quelques porcs et poulets. Mais tout d'un coup, la terre qui était morte commence à se réveiller sans engrais chimiques, sans pesticides, sans beaucoup de moyens financiers. Et un hectare qui était mort complètement s'est réveillé. Au-delà de ça, Sangha, c'est une véritable école. Tu apprends en faisant.
Alors, aujourd'hui, Sangha, c'est 22 hectares. Et le centre de Sangha accueille chaque année près de 3000 personnes formées, 20 000 touristes. Puisqu'il y a des solutions d'hébergement, il y a un restaurant, voilà, maintenant c'est aussi devenu un centre d'agrotourisme. Comment s'assurer dans ces conditions que le centre reste fidèle à ses valeurs, à l'idée de respect de la nature, alors qu'il grandit, il grossit?
Parce que c'est la même logique agroécologique. L'autre secteur, c'est l'agro-industrie. Donner des valeurs, valeur ajoutée pour qu'on continue de faire, une manière de transformer les produits, c'est encore dans la technique développée pour faire ça. Pour que, par exemple, je vous dis, on produit des tonnes d'ananas. Tous les pots d'ananas sont rebroyés pour faire des composts.
Mais quels produits vous transformez, par exemple? Il y a des jus de fruits, je crois.
Au jus de fruits, vous allez goûter ce jus de, j'espère vraiment, ananas, on commercialise ça.
C'est un domaine qui est très grand, avec beaucoup d'agro-industrie. Comment faire en sorte que ce modèle soit réplicable par un paysan qui a un tout petit peu de terre, qui n'a pas trop de moyens, ni de matériel moderne? Parce qu'ici, il y a du matériel moderne.
Ça, c'est vrai. Oui, les matériels, c'est important pour développer ça. Mais la formation qu'on donne ici, c'est pour que le garçon, la fille s'ouvre les yeux et pour inventer. C'est ça qu'on fait, l'invention. C'est comme ça que l'Afrique va relever la tête. Ce n'est pas des élitistes. Donc Sangha, vraiment, c'est un vivier, c'est un incubateur de la créativité et de l'innovation et de oser. Voilà, ils ont déjà vu ça ici.
Aujourd'hui, Sangha, c'est 5 centres au Bénin. Et le modèle s'est aussi exporté dans des pays de la région, comme au Nigeria, au Libéria et au Congo-Brazzaville. Et dans son lieu d'origine, à Porto Novo, hein, que nous avons visité, et c'est là où tout a commencé, eh bien, le centre Sangha accueille des jeunes nigérians, ivoiriens, camerounais, congolais, et bien sûr des béninois, comme Marlène Nitombe, 32 ans. Elle a suivi une formation de 6 mois sur place, à Sangha, et puis elle s'est inspirée aussi des fermes qu'elle a pu visiter au Bénin et ailleurs. Aujourd'hui, dans sa ferme, elle cultive une vingtaine de légumes et de fruits, des fruits de la passion, ananas, oranges, citrons. Les cultures se protègent entre elles face aux ravageurs, et cela permet aussi d'avoir des sources de revenus diversifiées. Alors on va la rejoindre, et il s'est arrêté de pleuvoir.
Là, on est en train de rentrer dans les jardins, c'est les jardins chez Marlène. Donc, c'est un espace où on cultive des légumes et des fruits, et c'est un espace agroécologique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les intrants chimiques pour faire notre production. Alors, ici, on est sur un espace de 1 hectare. Là, actuellement, on a du maïs sucré en place qui va bientôt être en maturité complète pour qu'on puisse les vendre.
Là, les plants sont hauts, hein, ils font quasiment notre taille.
Oui, quasiment. Ça fait au moins un mètre, en tout cas, un mètre et plus. Au fond, là-bas, c'est des bananiers. Donc, c'est de la banane plantain qu'on expérimente depuis près d'un an. On les a mis en terre au mois de juillet passé. Et on a déjà, depuis quelques semaines, nos premières récoltes de banane plantain.
Et alors?
Quelque chose de génial. On est assez contents pour ça. Et voilà, on va répliquer probablement l'expérience sur d'autres espaces du terrain.
Alors là, on est au milieu, hein, de votre exploitation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis Cotonou, il faut rouler un petit peu quand même, passer une grande partie sur la piste. Et là, c'est presque rural, en fait, hein, ici.
Exactement, on est en milieu rural. Et voilà, ça, on est à environ au moins une heure de Cotonou. une piste qui vient à la ferme ici. Voilà, donc c'est vraiment la campagne. C'est vrai qu'il y a quelques habitations depuis quelques années, des personnes qui commencent à s'installer progressivement.
Pourquoi vous êtes installée ici?
En fait, je me suis installée ici parce que, en fait, c'est une ferme qui appartient à mes parents. Donc, du coup, pour moi, en tant que jeune, avec les idées pleines à la tête, je n'avais pas forcément les moyens d'acquérir un espace propre à moi. Avant, c'était vraiment plus un verger qu'autre chose. C'était vraiment des arbres fruitiers, notamment des orangers, des citronniers.
Et c'était biologique?
Oui, c'était biologique. Mes parents ne sont pas agriculteurs du tout. C'est vraiment des personnes de la ville, des fonctionnaires de l'État. Mais mon père a toujours nourri le rêve d'avoir une ferme, mais vraiment un endroit en campagne où se retirer de temps en temps, où cultiver sa propre nourriture. Alors le paradoxe, c'est vraiment ça, parce que moi, je n'ai pas du tout grandi ici. Je suis vraiment à la base une fille de la ville. Je n'ai pas vécu ici du tout. Je détestais venir ici quand j'étais enfant. Mais après mes études, j'ai fait des études en diplomatie. Mais à un moment donné, j'ai senti ce besoin-là dans ma vie de faire quelque chose de plus concret. Donc, j'ai fait un master environnement parce que je voulais contribuer à la protection de l'environnement. Et faut dire que l'autre déclic aussi, c'est que j'ai fait un programme de volontariat au Canada. Et là-bas, j'avais travaillé dans une ferme permaculture.
Ça fait combien de temps que vous êtes lancée là-dedans, dans cette exploitation, dans l'agriculture biologique? Puisque Marlène, c'est vous, hein? C'est les jardins de Marlène, c'est vous.
C'est bien moi. Alors, je me suis lancée, disons, depuis décembre 2014. Disons, c'est la cinquième année quand même qu'on a commencé nos activités ici. Parce qu'au départ, c'était vraiment la brousse, cet espace. Donc, il a fallu tout nettoyer, tracer les jardins, faire les plans, faire des planches et tout, et commencer la production. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en temps quand même.
Alors, quelle réussite, quelle difficulté vous avez pu rencontrer?
Ça n'a pas forcément été facile de trouver déjà des personnes, parce que moi, ma cible, c'était vraiment des jeunes, parce qu'en tant que jeune, je voulais créer du travail pour d'autres jeunes aussi, pour moi, c'est vrai, mais pour d'autres personnes aussi, et démontrer aussi le fait que c'est possible pour les jeunes de réussir en agriculture s'ils s'y prennent de la bonne manière, je dirais. Et pour moi, la bonne manière, c'est vraiment cette manière-là qui protège l'environnement. Voilà, ça peut fonctionner, on peut adhérer à la cause, ça marche. Parce que l'agroécologie, c'est vrai, c'est pas quelque chose de nouveau, mais pendant longtemps, l'enseignement dans les écoles ou dans les universités agricoles a été centré sur la production conventionnelle, sur le système conventionnel. Donc du coup, quand tu recrutes quelqu'un qui est sorti d'une école d'agriculture, c'est sûr que c'est une école d'agriculture conventionnelle. Donc c'est à toi de lui... Tu fais une nouvelle formation à la personne sur le terrain de manière pratique. Donc, du coup, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est beaucoup de travail sur le terrain. Ça vient de plus en plus, ça commence à aller mieux. Mais c'est vraiment difficile encore de mobiliser les jeunes autour de l'agriculture, surtout quand il s'agit de l'agroécologie, parce qu'ils trouvent ça très difficile, très pénible, peut-être pas rentable, avec beaucoup d'exigences. Une culture, si je prends une production de, je sais pas, de concombre par exemple, au lieu de faire 45 jours à 60 jours en agroécologie, cette production va faire peut-être 30 à 35 jours en agriculture conventionnelle, ce qui crée une différence parce que celui qui est en conventionnel va plus rapidement vendre sa production parce qu'il l'a boosté justement à l'aide de produits chimiques, mais celui qui travaille avec la nature, c'est-à-dire la personne qui est en agroécologie, va vraiment aller au rythme de la nature. Donc, je pense que les gens voient plus la rentabilité financière. Et l'autre chose aussi, c'est le travail derrière l'agroécologie. Parce que nous, ici, on travaille vraiment de manière très manuelle, parce qu'on n'utilise pas de machinerie pour justement prendre soin de la terre comme il faut. C'est très important pour nous que le sol se porte bien et que les micro-organismes contenus dans la terre ne soient pas détruits par les grosses machineries.
Combien de personnes travaillent ici?
Donc, actuellement, c'est 6 personnes qui sont sur l'espace, dont deux personnes en permanence et quatre personnes qui sont en formation et en stage. De toute façon, c'est un peu pourquoi on fait ça aussi. C'est pour donner l'exemple, pour montrer que c'est possible de faire autrement, qu'il y a des alternatives. Mais il faut renoncer à une certaine idée de la réussite, les grosses voitures, les belles maisons. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une question de choix, quand même, après tout. La ilaha illallah, Muhammad Rasoulullah, Allah de Yafonye, Kangan Tradi Nyoma,
Kanyofa, Kafasobaka, Marlène Itombé vend ses fruits et ses légumes un peu plus cher que sur le marché conventionnel. Par exemple, 1 kg de concombre bio cultivé chez elle est vendu 500 francs CFA, c'est 75 centimes d'euros contre 400 francs CFA, donc 60 centimes d'euros, pour 1 kg de concombre dit conventionnel. Elle vend surtout à des riverains et livre à domicile ses clients à Cotonou et à Calavi, des consommateurs qui sont selon elle conscients que le bio est le meilleur pour leur santé. Alors justement, qui sont les consommateurs de ce marché bio émergent au Bénin? On va, pour le savoir, rallier Cotonou. Cotonou qui compte près de 5 magasins bio. Je suis allée dans l'un d'entre eux, Biodélice, qui a ouvert en 2017 et j'ai pu rencontrer des clients.
Quand je prends mon panier ici, je prends la peau de baobab. Je continue. Je prends la farine de plantain. Et je prends du sucre roux. Parce qu'on m'a déconseillé le sucre blanc. Donc c'est le sucre roux que je prends d'habitude.
Quand vous a déconseillé le sucre blanc?
On m'a dit que le sucre blanc, c'est pas bon pour la santé. Encore que quand tu es jeune, il faut commencer par adapter ton organisme à un certain nombre d'alimentation pour quand même prévenir les maladies de cancer ou bien assez de sucre dans le sang à la longue. Donc moi j'ai déjà commencé par faire ça déjà. Et le riz, 5 kg matepo, ce qui est un riz produit au Bénin. Je prends ça, c'est 4 500 le 5 kg.
4 500 francs?
Oui, 4 500 francs CFA, le 5 kg.
À peu près 7 euros, on va dire.
7 euros, approximativement, 7 euros.
Depuis combien de temps vous achetez bio en fait?
Moi, mes parents m'ont habitué à la consommation du bio parce qu'ils ont souvent l'habitude de dire qu'il faut consommer sain pour prévenir les maladies, consommer du naturel. Donc, il faut s'habituer à ça. Donc, c'est mes parents qui ont donné cette habitude et je l'ai adoptée. Ils s'assurent, ils font leur champ de manioc, champ de maïs, légumes aussi, ils font ça. Là, mais on a un potager à la maison où ils font tout ce qu'ils veulent. Donc c'est ça, facilement, eux ils s'en sortaient. Mais moi, je n'ai pas le temps de faire tout ça là. Donc je viens à la boutique naturellement pour me ravitailler.
Vous habitez dans le quartier?
Non, je suis à Kadjom. À peine 15 minutes, je suis à moto.
Le coût de ces produits bio par rapport aux produits non bio?
Alors là, c'est là le problème. C'est vraiment cher comparativement aux autres produits. Quand je prends par exemple l'huile rouge, si tu vas au marché, c'est à peine 800, tu vas trouver le litre. Mais quand tu viens dans une boutique comme ça, où c'est bien emballé, c'est 1250. Donc c'est le coût qui fait la différence. Mais il y a la qualité.
Donc vous venez combien de fois par mois?
Une fois par mois. Quand je viens une fois, j'achète tout ce que j'ai besoin et c'est bon.
Le reste, vous l'achetez où? Par exemple, pour les fruits et les légumes?
C'est pour les fruits et les légumes, elle va au jardin pour prendre ça. Il y a des jardins, oui, il y a des jardins à Cadieron.
C'est des jardins biologiques?
Oui, des jardins biologiques, exactement. Par mois, j'ai un budget pour me ravitailler. Et dans ce budget, il y a une part qui est réservée aux produits bio.
Alors c'est quoi cette part?
50%, carrément. 50% du budget de consommation est réservé pour les produits bio.
Et si je peux me permettre, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis comptable. Je suis comptable dans une entreprise de la place et on s'en sort bien quand même.
Oui. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes aussi la client dans ce magasin. Depuis combien de temps vous consommez bio?
Environ 3 ans. Maman a le diabète, donc c'est ça, c'est ce qui m'a poussé moi à beaucoup plus consommer du naturel. En imaginant que je n'aurais pas ça quoi. Voilà. Elle adore les choses sucrées, voilà. Donc, j'ai dit waouh. Donc, du coup, j'ai commencé à éviter tout ça. Je veux me sentir, vous voyez comment je suis, non? Voilà, j'ai la belle, la pleine forme et tout. Donc, je suis mignon, non? Vous ne me trouvez pas mignon?
Si, allez.
Super, voilà. Donc, c'est ça. Il y a ceux qui ont compris que voilà, c'est le bio qui est bon. Avec le bio, on atteint son apogée et tout. Sincèrement, je ne suis pas encore déçu. C'est le prix. Parce que le bio au Bénin, c'est un peu cher, un peu coûteux. Voilà.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Voilà une initiative qui prend de l'ampleur et que nous sommes fiers d'accompagner. Le programme Hip-Hop pour Petites Ondes Participatives propose à des jeunes de recueillir en vidéo le ressenti des anciens sur les conséquences des changements environnementaux et climatiques. Un ressenti soumis ensuite à la perspicacité des scientifiques. Bonjour Gaël Flaugère.
Bonjour Anne-Cécile.
Alors vous êtes l'animateur de ce réseau créé à l'origine par Max Ball. Max qui travaille, alors on va tout dire à nos auditeurs aujourd'hui, au service Planète Radio de RFI. Donc on est un peu en famille.
Absolument.
Ce service Planète Radio, c'est un service qui développe des radios de proximité dans des zones isolées. Mais là, donc, il s'agit d'une autre démarche, Gaël.
C'est ça, donc Hip-Hop, vous l'avez dit, petites ondes participatives. Alors qu'est-ce que c'est l'idée? C'est l'idée qu'avec le développement des technologies, et notamment des smartphones, tout le monde a dans sa poche un outil formidable, un outil qui a une vraie puissance politique qui peut permettre de faire émerger des problématiques, notamment environnementales. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Hip-Hop. On essaie de fédérer un réseau, notamment de jeunes, mais aussi de moins jeunes, qui vont pouvoir, avec leur smartphone, capter des témoignages rares, des témoignages impactants sur les changements environnementaux et climatiques. Je pense qu'en ce moment, on en a plutôt besoin.
Alors l'aventure a démarré il y a 2 ans en Nouvelle-Calédonie et depuis elle s'est étendue.
C'est ça, on a eu une phase pilote en Nouvelle-Calédonie, donc qui est un des lieux qu'on a identifié comme étant un des plus touchés par les changements climatiques et environnementaux. Et en partant de cette base-là, on s'étend en Afrique de l'Ouest, on s'étend en Afrique centrale et on s'étend également à La Réunion.
Alors qu'est-ce qui fait que l'on devient hip-hopper? Parce qu'il y a tout un... Mais il y a plein de mots autour de ce réseau hip-hop.
C'est vrai, il y a toute une grammaire, oui. Mais on devient hip-hopper parce qu'on souhaite s'impliquer, on souhaite s'engager. Et c'est vrai que nous, on demande aussi un peu d'engagement. On essaie de favoriser l'engagement, en fait. C'est souvent des gens qui sont intéressés par les technologies, qui sont intéressés par l'environnement. On a les deux portes d'accès. Et nous, on apprend aux gens à faire des petites vidéos, à faire des petits films et en même temps à les utiliser pour défendre une cause que nous, on juge chère et importante, l'environnement.
Alors le principe, c'est donc aller avec son téléphone, filmer, je le disais au départ, les anciens, c'est quand même ça l'idée, pour leur demander de témoigner sur les changements qu'ils ont observés. Donc c'est très empirique en fait.
C'est ça, ceux qui ont vu, ceux qui ont ressenti le changement climatique. Parce que, à mon avis, on a traversé plusieurs phases dans notre perception de l'environnement. D'abord la phase où l'environnement, en tout cas le danger sur l'environnement, était quelque chose d'un petit peu flou, un petit peu nébuleux.
Théorique.
Mmh. Ensuite la phase de panique, qui à mon avis est la phase dans laquelle on est actuellement. C'est la phase du GIEC, c'est la phase... On sait que ça va être très compliqué maintenant d'avoir aucun impact sur la vie des gens. Et la troisième phase, ça va être la phase des impacts. Ça va être la phase où il va se passer des choses et nous, on va essayer d'être prêts pour cette phase-là. Et ça arrive déjà, en fait. C'est ça que nos hip-hoppers nous apprennent, c'est que ça arrive déjà et qu'on a déjà ces témoignages-là de gens qui les vivent au quotidien.
Oui, qui vivent les conséquences des changements climatiques et plus largement des dégradations de l'environnement. Donc ce programme a été conçu avec des scientifiques. Bonjour Pascal Chabanet.
Bonjour.
Vous êtes docteur en écologie marine, spécialiste des récifs coralliens dans la zone sud-ouest de l'océan Indien. Vous êtes aussi directrice de recherche et représentante de l'IRD à La Réunion. Alors l'Institut de recherche pour le développement est partenaire depuis le début, c'est-à-dire, je le disais, depuis 2017, de cette aventure hip-hop. Quel est l'intérêt de cette démarche du point de vue scientifique?
Alors l'intérêt de cette démarche, je pense qu'il y a la
Première chose, c'est d'avoir accès à ce ressenti des populations, parce que et en plus, je pense que comme c'est filmé souvent par des jeunes qui ont des contacts avec ces personnes qui ont des histoires à raconter, donc d'un point de vue recherche, déjà ce ressenti des gens,
ça nous apporte de la matière.
Voilà, ça nous apporte de la matière, et donc c'est surtout analysé d'un point de vue des sciences sociales. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, en fait, moi qui m'intéresse particulièrement, c'est de recréer du lien entre la science et la société, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une rupture, en fait, de ces liens. Et du coup, cette démarche, elle permet de recréer du lien et d'avoir aussi, parce qu'une fois qu'on a cette capsule HIPHOP, les scientifiques sont là pour essayer d'expliquer en fait ce que ressentent les gens, parce qu'on parle du changement climatique, mais en fait, je pense qu'au-delà du changement climatique, c'est l'impact de l'homme sur l'environnement. À la limite, moi, je parlerais plutôt du ressenti des gens par rapport au bouleversement qu'ils ont vécu ces 50 dernières années, ou 20 ou 30. Voilà. Et il y a l'impact de l'homme qui est quand même assez prégnant sur la planète en général. Et donc, avoir accès à ce patrimoine, en fait, c'est important. Et ce contact avec les gens pour expliquer leurs ressentis. Et souvent, ça crée des débats assez intéressants parce que le ressenti des gens, c'est pas toujours ce qu'ils ressentent et ce qu'on peut expliquer de manière scientifique. Il y a des fois des petits écarts.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a la perception de l'évolution de son environnement immédiat, et puis il y a le regard scientifique avec le recul qui met tout cela en perspective et qui peut rétablir
en tout cas, ce qui est important, c'est cet échange. Échange, et ça, pour moi, c'est très important, en fait, de recréer ce lien.
Mi-mai, le réseau HIPHOP a dévoilé les résultats d'un concours de capsules vidéo organisé sur le thème « Fais voir ce qu'ils ressentent ». Donc là, vous avez eu beaucoup de propositions finalement, il y a eu beaucoup de candidats.
Il y a eu beaucoup de candidats, on a été surpris surtout de voir à quel point les gens se sont impliqués personnellement dans ces vidéos-là, et on sent vraiment que les personnes qui sont allées voir sont des gens qui avaient des choses à dire et qui comptaient pour eux. Donc ça, c'est la première chose.
Quels étaient les critères pour participer ?
Il fallait juste vouloir raconter une histoire.
En Afrique, hein ?
Non, pas que en Afrique.
Pas que en Afrique.
Pas que en Afrique, mais il est vrai qu'on a eu beaucoup de soumissions africaines, et on a été surpris par le talent des gens. Mais on n'a pas eu que des soumissions en Afrique. On a eu, par exemple, une capsule haïtienne, on a eu des capsules en Nouvelle-Calédonie, nous avons eu des capsules à La Réunion. Bien sûr, en tout, c'est 15 pays qui nous ont envoyé des vidéos.
Voilà, et donc le gagnant, c'est Émile Vitus Tosu pour sa capsule vidéo intitulée « Nulle part où aller », réalisée au Togo. Je vous propose de découvrir cette capsule en version audio, puisque évidemment, nous sommes à la radio.
Je m'appelle Bemumu Tosu et je suis natif de Kosiek-Bavi. La mer nous repousse depuis longtemps. Ce phénomène a commencé avec nos parents. Moi, je suis charpentier et je n'avais jamais imaginé vivre cette situation. Après chaque avancée de la mer, on faisait appel à moi pour démonter les toitures, jusqu'à ce que ça soit mon tour. Les deux tiers de ma propriété sont désormais dans la mer. Avant, nous pouvions jouer au ballon sur la plage. Et il y avait un marché ici. C'était le marché de Sandramé. Et avant d'atteindre la mer, il fallait traverser la grande route goudronnée. Maintenant, la mer est là, sous notre nez. Avec l'érosion côtière, plus aucune activité n'est possible. Aujourd'hui, on peut réellement constater la montée du niveau de la mer. On nous a promis que des digues seraient installées, mais rien n'a été fait. Nous avons appris par la radio que nous devions quitter la côte, car la mer risquait de nous effacer de la carte. Mais que faire ? Nous n'avons pas les moyens, sinon nous serions déjà partis. Nous avons espéré que l'État aménagerait un autre endroit pour nous installer, pour nous aider. Ceux qui ont les moyens, ils sont déjà partis. Il ne reste plus que nous, qui n'avons nulle part où aller. Notre souhait est que l'on trouve une solution contre l'érosion de notre côte. Notre souhait est que l'on trouve une solution contre l'érosion.
Voilà, ça passe bien à la radio aussi finalement, même sans l'image. Donc cette capsule réalisée par Émile Vitus Tosu qui a gagné le concours hip-hop cette année grâce à cette vidéo « Nulle part où aller ». On entend, Pascal Chabanais, c'est toute la problématique de l'érosion côtière qui touche énormément les pays d'Afrique de l'Ouest, pas seulement, mais notamment.
Et puis toutes les îles en général, en fait, il y a... C'est vrai, encore une fois, on parle du changement climatique, mais il y a aussi l'impact de l'urbanisation, de la déforestation, de toutes les... Enfin, je vois, on a les mêmes problématiques à La Réunion. Et c'est vrai que le fait de ne plus avoir de végétalisation sur le bord des côtes va accentuer, dès qu'il y a de la houle, dès qu'il y a des cyclones, ça va emporter le sable et éroder les côtes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un ressenti qui est... C'est sûr qu'il y a des problèmes aussi, sans doute, d'augmentation du niveau marin, mais à ce stade, quand j'entends ce reportage, je pense qu'il y a vraiment aussi des problèmes humains, en fait, de mauvaise gestion de l'espace côtier.
Oui, c'est vrai qu'on a fait pas mal d'émissions sur ce sujet dans C'est pas du vent, sur l'érosion côtière, et c'est vrai qu'il y a aussi l'impact des constructions, vous le disiez, notamment les ports qui créent des déséquilibres sur la circulation du sable.
C'est pareil, il est dit que ça va faire qu'accentuer le problème, en fait, donc peut-être revégétaliser la côte, en fait. C'est pour ça que ces capsules sont passionnantes, parce qu'en fait, ça permet l'interaction avec des gens avec lesquels on parle très peu, en fait. Et donc, c'est là où c'est très enrichissant, d'un point de vue humain aussi, quoi. Ces échanges avec ces gens qui sont impactés, les plus vulnérables sont les plus impactés, parce que ceux qui ont les moyens, ils font construire leur maison beaucoup plus loin, mais les gens qui vivent près des côtes...
Oui, c'est ce qu'il disait, là. Si on avait les moyens, on partirait.
Oui, exactement. Oh. Ouais.
Bonjour, Franz Vaillant.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de TV5 Monde. Vous avez fait partie du jury, comme moi, je dois l'avouer, de ce concours. On a dit qu'on disait tout aux auditeurs, donc voilà. Comment est-ce que vous avez réagi en découvrant ces 10 films qui avaient été sélectionnés parmi les 70 reçus?
Alors moi, j'étais très frappé par le courage et la dignité de ces personnes dans cette dizaine de films. J'étais très frappé aussi par une espèce d'aveu d'impuissance qui ne te dit pas, mais le monde un peu leur tombe dessus. Ils se rendent compte que ils se trouvent otages d'une situation qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils n'ont pas créé, et il y a une impuissance terrible, avec aussi la volonté de témoigner. C'est-à-dire que nous, ici, en France, on va dire en Europe, on évoque toujours un petit peu des décimales, on évoque des statistiques. Là, on touche le vrai du vrai. On touche ce que réellement signifie le réchauffement climatique, avec toutes les problématiques que ça engendre.
Parce qu'il est beaucoup plus visible sur le continent africain qu'en Europe. Même si en Europe, il commence à y avoir des conséquences.
C'est vrai.
Aussi.
Mais là, on a affaire à des gens simples qui nous parlent simplement de choses que l'on veut nous faire croire et qui peut-être sont effectivement très compliquées, mais qui les impactent directement. Et moi, j'étais très, très, très sensible à tout ça. Et il n'y a pas un seul, on va dire, non pas mauvais témoignage, mais un témoignage faible. Il y a des thématiques diverses, mais toutes les personnes qui témoignent sont réellement touchées et font passer ce frisson de cette urgence. Cette urgence, encore une fois, qui ne rêve pas de décimales et de statistiques, mais qu'ils ont sous les yeux chaque jour.
Alors, quel était votre film préféré? Est-ce que c'était celui du Togo qui devait gagner pour vous ou...
Alors ça, c'est une drôle de question, elle est drôlement difficile, parce que toutes ces personnes m'ont ému. Moi, j'ai été ému par cette petite vendeuse, par exemple, à Goma, qui vendait des sous-vêtements pas très loin d'une espèce de piscine de détritus, alors qu'elle-même est victime de fièvre typhoïde. J'ai souvenir également de cette montagne de détritus, je me souviens plus du pays, mais cette montagne de détritus avec un crocodile blanc qui en arrive à perdre sa couleur. C'est ça, au Burkina Faso. Qui en arrive à perdre sa couleur parce qu'il est complètement étouffé par tout ça. Et je me souviens surtout, là vous me posez la question, surtout de ces deux cas-là. Très très précis. Et évidemment le Togo, parce que il faut aussi le dire, nous sommes à la radio, mais les images sont magnifiques.
Absolument. Oui, il y a un vrai effort, Gaël Flaugère, de réalisation, malgré peu de moyens là aussi.
C'est ça, et c'est ce qui est magnifique avec la technologie, c'est que nous on apporte vraiment un support minime pour la construction de nos vidéos. On donne quelques petites bases, on donne quelques petits conseils, on saupoudre comme ça de ce qu'on sait faire à la télé ou à la radio. Mais ensuite, c'est aussi le talent des gens qui s'expriment et qui permettent de donner vraiment beaucoup de couleur à ces témoignages et beaucoup de force.
Et Franz Vaillant, est-ce que, en tant que journaliste, ça vous semble pertinent de donner la parole à des citoyens pour parler de ces enjeux ?
Oui, parce qu'avec leurs mots, avec leur quotidien, ils sont les plus à même de témoigner. Au sein de TV5 Monde, nous avons fait pendant près d'une dizaine d'années un concours qui interpellait les citoyens via les centres culturels français, via les classes françaises, et on leur demandait notamment de faire une petite action, minime peut-être, mais une petite action en faveur de l'environnement. Ça pouvait être ramasser des papiers gras, peu importe, etc. etc. Et ces personnes qui étaient sollicitées, qui avaient répondu présentes, contre toute attente, s'étonnaient de pouvoir être aussi acteurs ou actrices au quotidien de ce changement en bien. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans la salle d'attente des promesses politiques, on était dans l'action. Et ça, c'était remarquable.
Alors, je vous le disais, j'ai fait aussi partie de ce jury et il y a une vidéo moi, qui a particulièrement retenu mon attention. Alors, comme c'est mon émission, ben, j'en profite, j'ai choisi de la diffuser. Il s'agit d'un reportage intitulé « Des kilomètres pour les bêtes », un reportage qui a été réalisé au Niger par Noupko Urbain Aguemon.
Je m'appelle Soumana Amadou, j'ai 44 ans, j'ai une femme et 4 enfants. La nature n'est plus la même et nous avons beaucoup de mal à nourrir nos animaux. Ici, nous sommes à Gourbanda, près de l'ancien cours d'eau. Mais comme vous pouvez le constater, nos troupeaux sont maigres à cause du manque d'eau et de nourriture. Ils n'ont plus d'herbe à brouter ni d'eau pour s'abreuver. Il y a quelques années, quand le temps était clément, notre activité était rentable. Le bétail et les cultures nous rapportaient. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés de brader nos animaux au marché à cause de leur maigreur et des maladies. Même quand il pleut, nous n'en profitons pas parce que le cours d'eau est rempli de sable. Les herbes et les cultures ne poussent plus. Et nous sommes obligés d'acheter du foin au marché. Nos animaux sont tellement maigres que certains ont même perdu leurs cornes. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour vivre ce changement de la nature et du climat? La nature d'avant et celle d'aujourd'hui ne sont même pas comparables. Les animaux souffrent, nous avons besoin d'aide, aidez-nous. Maintenant, nous devons mener nos animaux au fleuve Niger, à 7 km d'ici. Mais ils s'assèchent également.
Des kilomètres pour les bêtes, donc une capsule vidéo réalisée au Niger par Noupko Urbain Aguemon. Pascal Chabanet, je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'IRD, spécialiste des récifs coralliens, donc évidemment les enjeux de la sécheresse au Sahel, c'est pas trop votre spécialité, mais en tant que scientifique, quel est l'intérêt pour vous d'un tel témoignage ?
Alors, je pense que l'intérêt, c'est d'avoir toujours, en fait, je parle encore de mémoire, hein, donc ça, c'est important d'avoir le ressenti des gens. Je pense que d'un point de vue en sciences sociales, encore une fois, ça je pense que ceux qui sont en sciences sociales ont un intérêt à étudier ces capsules. Là, c'est vrai que je suis pas hydrogéologue, hein, j'ai pas cette compétence, mais en tout cas, le problème qu'on observe aujourd'hui, il y a évidemment des problèmes de déforestation, de changement de climat qui fait qu'il y a peut-être moins de pluie, il y a peut-être le fleuve, l'eau est utilisée par d'autres personnes en amont et donc ceux qui sont en aval,
et on observe donc toute cette rivalité entre les agriculteurs et les éleveurs aussi autour de ces enjeux de l'eau. Gaëlle Flaugère, c'est le principe de Hip-Hop, hein, on le disait, de mettre ces témoignages recueillis par les jeunes vidéastes en perspective par des scientifiques. Et alors cela, c'est pas forcément visible sur le site internet de Hip-Hop, cette mise en perspective, parce que vous le faites un peu différemment.
C'est ça, en fait, on a pas mal cherché de formats pour intégrer les scientifiques dans la démarche, car c'est une richesse incroyable, mais c'est aussi, et c'est un challenge pour nous, quelque chose qui est assez peu répandu dans les médias et notamment dans les médias sociaux. C'est compliqué de faire parler un scientifique. Mais en tout cas, voilà, on travaille là-dessus et nous, la vie de nos vidéos ne s'arrête pas à leur diffusion sur les médias sociaux. On va notamment essayer, vous savez, c'est comme un court-métrage, comme un film qui passe pendant plusieurs mois, la saison des festivals. Ben nous aussi, on l'amène en saison des festivals avec nous, on l'emmène dans les différents congrès, colloques qui traitent de l'environnement, de la biologie. Et c'est là que nous, on va beaucoup compter sur les scientifiques de l'IRD pour mettre ces vidéos en perspective, pour séparer ce qui est du concret, du réel, de ce qui est du ressenti.
Et c'est vous qui animez le réseau hip-hop dans l'océan Indien en général,
oui,
Pascal Chabanais.
Tout à fait. Bon, j'anime pas particulièrement ce réseau. En fait, on a choisi la Réunion, en fait, l'IRD de la Réunion au départ. Hein. La Réunion, c'est une très belle plateforme pour rayonner ensuite dans l'océan Indien. Donc, on a démarré le projet à la Réunion, mais avec l'idée, bien sûr, de l'étendre à toute la région océan Indien, Madagascar, toutes les îles de l'océan Indien, et puis ensuite l'Afrique. Avec, je pense que la Réunion a cet intérêt aussi, c'est qu'il y a une présence, en fait, il y a une université, il y a aussi des universitaires qui travaillent spécifiquement dans le domaine de la recherche sur la communication. Donc, on va intégrer tous ces gens dans ce réseau à la Réunion. Voilà, je pense que d'un point de vue pratique, c'était bien de partir de la Réunion pour ensuite rayonner dans la région océan Indien.
Et quelles sont les grandes thématiques, à votre avis, qui peuvent ressortir dans les capsules à l'échelle de l'océan Indien ?
Les thématiques, elles ne seront pas vraiment différentes de celles qui ressortent aussi dans la région Pacifique. Il y a tous l'érosion des côtes, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup aussi dans la région océan Indien, l'érosion de la biodiversité. Il y a des problématiques aussi d'augmentation des cyclones, par exemple. Je pense qu'il y a aussi une problématique, notamment à la Réunion, qu'on trouve de manière très très forte, c'est les plantes envahissantes. En fait, c'est vrai que les petites îles, en fait, elles sont vulnérables par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de liens maintenant en bateau, avion entre les différentes îles. Donc, une problématique assez forte, en tout cas sur la Réunion. Voilà, c'est celles qui me viennent à l'esprit tout de suite, et je pense que il y a toute la problématique aussi qui est intéressante, c'est la restauration des habitats, ensuite suite à ces impacts qui ont lieu donc sur ces îles. Ça, ce sont des choses qui vont être développées aussi au niveau du colloque et dont je pense qu'on en discutera beaucoup, parce que c'est sûr que là, il y a des impacts, mais c'est quoi les solutions ? Parce que c'est pas le tout de constater, il faut aussi essayer de travailler sur des solutions avec des présences de politiques aussi, ça c'est important. Et je pense que les capsules sont parfaites pour ça, c'est qu'elles amènent la parole dans des débats. Et je pense que les politiques ont besoin aussi de voir en face ce qui se passe dans le concret de la vie de tous les gens.
Oui, s'ancrer dans le réel. Voilà, c'est d'ailleurs notre rôle de média. Franz Vaillant à TV5 Monde, vous donnez une part importante à ces enjeux environnementaux. Aujourd'hui.
Dès qu'on le peut, à chaque fois que l'actualité s'y prête, on n'hésite pas à inviter Jean Jouzel, Paul Watson, voilà, de Sea Shepherd, mais également aussi via nos partenaires de la RTBF, des représentants politiques ou des activistes de chez Greenpeace. Dès qu'on peut le faire, nous le faisons et nous essayons, dans la mesure du possible, d'octroyer des tranches quand même qui oscillent entre 8 et 12 minutes à chaque fois pour chaque invité. Ça n'est pas un petit reportage et puis tout le monde s'en va. On essaie d'immerger un maximum de personnes, parce que je crois qu'il faut effectivement communiquer. Gaël tout à l'heure disait une chose très juste, c'est cette impossibilité, cette difficulté parfois à communiquer sur des thématiques compliquées et de ratisser un maximum de personnes. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile d'inviter un climatologue et de ne lui donner que 5-6 minutes. Tant les calculs sont subtils, mais quand même, je pense toujours à cette phrase de Brecht qui disait, on n'est pas celui qui ne sait pas est un ignorant, mais celui qui sait et ne dit rien est un criminel. Ben, je trouve que nous, journalistes, dans notre métier, c'est de faire savoir aussi.
Gaël Flaugère, quel est le planning, l'agenda de hip-hop dans les semaines qui viennent ?
On prépare une petite formation en ligne au tournage et au montage de films de capsules hip-hop avec son smartphone qui est prévu pour la fin d'année.
Alors on en reparlera à ce moment-là, mais c'est vrai qu'il faut dire aux auditeurs qui nous écoutent que tout le monde peut participer.
Absolument, tout le monde peut participer. Le simple prérequis, c'est d'avoir un smartphone. La qualité, on s'en fiche un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la force des témoignages et l'authenticité.
Voilà, les 10 capsules vidéo lauréates sont visibles sur la page Facebook du réseau Hip-Hop. Merci à tous d'avoir participé
Merci.
À cette émission.
Merci beaucoup. Merci.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour sa réalisation et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission sur les réseaux sociaux, hashtag CPDV, et en podcast sur l'application Pure Radio de RFI. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.